Bonjour à tous, messieurs, bienvenue dans Ça roule, l'émission vélo qui pédale dans la semoule. Et oui, l'émission qui s'était un peu arrêtée, mais qui repart pour ce début d'année et ce premier monument qui arrive, Milano-San Remo, la primavera. Alors aujourd'hui, on va parler de Milan-San Remo, on va faire nos pronostics, mais surtout, on va faire un petit retour de ce qui s'est passé les dernières semaines, et surtout Paris-Nice et Tirreno-Adriatico. Et pour cela, dans Ça roule, je suis accompagné de mes deux chroniqueurs classiques. Ils n'ont pas changé, on les entend déjà tousser. Pierre Marchand, le TER de Clermont-Ferrand, et Nicolas Delic, unique pratiquant de air cycling en France. Messieurs, comment allez-vous? Qui veut commencer à parler?
Ça va super bien.
Ça okay, va
super bien. Après,
le air cycling,
mois,
ça roule
Le air cycling, ça roule toujours. Voilà, après 5 mois sans rien faire, je suis content de me remettre sur ce petit podcast, parce que là on a hiberné, voilà, on sort de la tanière et on se remet au vélo, il fait beau, c'est le printemps et les plus belles classiques arrivent.
Super, j'espère que tu as quand même regardé du vélo. Pierre Marchand, comment il va?
Bah, il va plutôt pas mal, un peu de travail en ce moment, donc moins de vélo que d'habitude, mais il y en a toujours un petit peu. J'avais une question, moi, tu as dit bonjour messieurs, c'est une émission spéciale homme ou il y a un petit peu de mixité dans cette émission?
Ouais, pour l'instant, il n'y a pas encore de mixité, Pierrot, je sais que tu l'appelles de tous tes voeux et on fait le maximum pour avoir des femmes, mais souvent quand je prononce ton nom, je ne sais pas pourquoi, les gens ne veulent plus venir, enfin les femmes ne veulent plus venir.
C'est un peu le résumé de ma vie, c'est vrai, merci.
Bah écoutez messieurs, je vous propose qu'on commence comme d'habitude sur ce menu le conseil de classe. Le conseil de classe, vous connaissez le principe, vous allez me donner vos félicitations, vos encouragements, vos avertissements sur ce qui s'est passé sur Paris-Nice et sur Tirreno. Je propose que ça soit Nicolas qui commence. Alors Nico, on te laisse parler, tu nous fais les trois d'un coup, félicitations, encouragements, avertissements, après ceux de Pierrot et après on en débat messieurs.
C'est parti, et pour chaque catégorie, je vais vous donner deux coureurs. Alors, je commence par les félicitations. Eh bien, félicitations, et je pense, comment est-ce qu'il peut en être autrement pour la Visma Lisebike, avec ce nouveau nom, pour leur performance sur le Tirreno et Paris-Nice.
C'est une
victoire
équipe.
Sur le Tirreno avec Vingegaard, victoire sur Paris-Nice avec Jorgensen, deux victoires d'étape à chaque fois avec Olaf Koy et Vingegaard. Je pense qu'on est sur une copie parfaite, quasiment un 20 sur 20. Je pense qu'on va en redébriefer après. D'autant que si on pouvait attendre Vingegaard sur le Tirreno, moi je n'attendais pas Jorgensen et la Visma aussi forte sur Paris-Nice. Donc surpris aussi de cette victoire. Voilà pourquoi je leur donne mes félicitations. Deuxième félicitation pour le sprinter italien Jonathan Milan, qui a remporté deux victoires d'étape sur le Tirreno. Et je le mets en félicitation parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort devant quand même un beau plateau de sprinter et qu'il remporte deux victoires d'étape. Alors c'est sûr que c'est pas un
gars. On en débattra plus tard, vas-y, continue.
Ouais, c'est sûr que c'est pas un gars qui sort de nulle part avec ce qu'il a fait sur le Giro l'an dernier. Mais voilà, je m'attendais pas à ce qu'il remporte ces deux victoires d'étape devant donc du beau monde. Donc je le mets en félicitations et j'en attends beaucoup de lui pour la saison. Ensuite, les encouragements, deux encouragements pour Egan Bernal. Il revient de loin, notre petit Colombien Egan Bernal. Je suis content de le revoir à ce niveau-là. Il fait deux top 10 sur le Paris-Nice, enfin sur deux étapes, un top 10 au général. Ça fait plaisir. Je pense qu'il commence à voir le bout du tunnel et il termine quand même devant des coureurs qui sont quand même pas rien, devant des Arensman, devant des Roglic au général. Donc bravo à Bernal, c'est un bon signal qu'il envoie pour la suite de la saison. Je suis très content de le revoir à ce niveau. Je pense qu'on l'avait tous un petit peu oublié. Deuxième encouragement, c'est pour Isaac Del Toro sur le Tirreno. Il confirme tout le potentiel qu'il a, celui qui a remporté le Tour de l'Avenir l'an dernier. Isaac Del Toro, il confirme son excellent début de saison. C'est le quatrième homme le plus fort sur le Tirreno, derrière Vingegaard, Hindley et Ayuso. Et même chose, je pense que je l'aurais placé dans un top 10, mais pas aussi haut. Là, il fait quand même un beau top 5. C'est vraiment, et on pourra en reparler, le quatrième homme fort de ce Tirreno. Donc, chapeau à lui et chapeau.
Allez,
pour,
on accélère sur les avertissements. Je pense qu'on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard de tout ça.
On y arrive pour les avertissements. Je vais aller vite. Avertissement pour Primoz Roglic. Et oui, ça fait mal de voir Primoz dans les avertissements. Mais je pense qu'il est passé un petit peu et on pourra en débattre à côté de ce Paris-Nice. Donc avertissement, car je pense que pour lui, sa saison 2024 ne va pas ressembler à sa saison 2023. Et je mets donc un avertissement pour Primoz Roglic. Je pense que ça va être assez compliqué, voilà, de le voir aussi haut qu'en 2023. Et deuxième avertissement, aïe aïe aïe, attention, peut-être me faire taper sur les doigts, mais avertissement pour nos coureurs français sur Paris-Nice. Voilà, pas de top 10 sur Paris-Nice. Je vous sors déjà la stat, ce n'était plus arrivé depuis 2007, messieurs, sur Paris-Nice. Okay. Pas de coureurs français dans le top 10 au général.
Et alors, je vais te couper parce que tu nous as déjà sorti à peu près 70 stats et 24 chiffres. Donc là, on est déjà perdu. moi, je suis en train de noter tous les chiffres. Là, je croule. On va demander de la parole à Pierrot qui va nous donner ses félicitations, ses encouragements et ses avertissements. N'hésite pas à être un peu plus succinct parce qu'il nous reste tout le reste de l'émission pour pouvoir débriefer. Donc voilà, quelques noms, une petite phrase, ça sera suffisant. Pierrot, c'est à toi le conseil de classe.
Ok, c'est parti. Juste une précision avant de commencer. Moi, mes notations, c'est par rapport à mes attentes. Donc, c'est pas une appréciation dans l'absolu. Sinon, j'aurais mis tous les vainqueurs d'étape et tous les vainqueurs du général. Félicitations, Visma, Nicolas a déjà dit. Donc, pas grand chose à rajouter, si ce n'est que j'attends de voir le round numéro 2, notamment sur les classiques en concurrence avec UAE. Pourquoi pas que UAE reprenne le dessus sur la deuxième partie de saison. Deuxième félicitation, Ben O'Connor. Ben O'Connor, il a rien gagné, mais Ben O'Connor, je le trouve très régulier, très consistant. Et je pense que c'est un candidat légitime pour le podium sur le Giro. Encouragement, je suis encore une fois d'accord avec mon cher acolyte Nicolas, puisque je mets Bernal en encouragement. Je trouve qu'il s'est vraiment battu et qu'il revient à un très haut niveau. Et j'ai aussi une petite pensée en fait pour les mecs qui dominaient avant les années 2020. Je pense que Bernal, en fait, il est à son niveau de 2019. C'est juste que les autres sont encore meilleurs aujourd'hui. Donc, il n'est pas plus haut dans la hiérarchie. Deuxième et dernier encouragement, on va être un petit peu chauvin. Axel Zinglet, il n'a pas encore gagné cette année, mais je pense que ça va venir. Il a fait plusieurs fois deuxième derrière Pedersen à la Provence. Il a encore une fois été présent sur les massifs durant le Tirreno. Donc c'est tout bon. Il fait pas trop de bruit, mais ça commence à être très intéressant au niveau World Tour. Et pour les avertissements, vous me dites si je vais trop vite ou si je vais pas assez vite. Les avertissements, les vieux de la FDJ, Madouas, Godu, King, Kung, Mollard. Ils sont pas si vieux, mais ils sont complètement dépassés par les Martinez, les Grégoire, et surtout le petit Laurent Spiti qui fait un début de saison exceptionnel. Donc, c'est pas un avertissement au sens d'une mauvaise conduite, mais plutôt un point de vigilance pour qu'ils se ressaisissent, parce qu'aujourd'hui, ce sont uniquement les plus jeunes qui tirent la locomotive FDJ. Et enfin, pour terminer, Jasper Philipsen, aussi un avertissement. Alors je m'en félicite, non pas que j'aime pas Philipsen, hein, mais que finalement on n'y ait plus trop une hiérarchie très claire au niveau du sprint mondial. On a vu Wellstorm en Australie, Merlier à l'UAE, Colt sur Paris-Nice, Milan, Nicolas Cité sur Tirreno. Donc c'est cool, ça donne du suspense et ça donne envie de suivre les prochains massifs sur les étapes d'une semaine, sur les grands tours et peut-être même dès ce samedi sur Milan-San Remo.
Eh ben, écoute, très bien, Pierrot. On a entendu ton conseil de classe. Qu'est-ce que Nicolas, t'as quelque chose qui te fait réagir sur ce qu'a dit Pierrot? Je te rappelle, félicitations Visma O'Connor, encouragement Bernal comme toi, Zinglet de la Cofidis et avertissement pour les vieux. On ne sait pas à partir de quel âge, mais c'est les vieux de la FDJ, de la Groupama FDJ et Jasper Philipsen qui se prend un avertissement. Attention à toi, Jasper.
Ouais, non, pas de réaction. Je suis plutôt d'accord avec tout ce que dit également mon cher acolyte. Très content de le retrouver. Peut-être qu'un avertissement sur Philipsen, c'est assez fort, mais j'attends de voir les arguments.
Qui a quand même gagné une étape sur Tirreno.
Tout à fait. Et je voulais juste apporter une petite rectification. J'ai dit que Bernal avait fini devant Arensman. Je voulais parler de Kelderman. Voilà, pour le petit loupé devant Kelderman sur Paris-Nice.
Ok, donc pas de réaction particulière à part le Jasper Philipsen en avertissement. Pierrot, même question que je te pose. Je te rappelle la longue liste de Nicolas, même si exactement le même nombre que toi, mais c'était plus détaillé. Visma, félicitations et le sprinter Milan. Encouragement Del Toro Bernal et avertissement Roglic et les Français, Nico, qui va très fort. Les Français sur Paris-Nice, pardon. Autant pour moi, parce qu'effectivement, sur Tirreno, c'était quand même bien meilleur.
Globalement en phase. Après, oui, ben, Roglic, on peut effectivement lui mettre un avertissement. Bon, je lui laisse encore une course pour voir si c'est effectivement un niveau qui est en deçà de ce qu'il produisait les années précédentes ou si c'est une remise en route qui est peut-être un petit peu plus difficile. Première remarque. Et deuxième remarque, et comme ça je complète ce que j'ai dit précédemment, sur Philipsen, en fait, ça va au-delà. En fait, je pense qu'il est à. Alors, des tournants dans une carrière, il peut en avoir plein, mais je pense qu'il a un moment, il a fait quelques déclats dans la presse, où en fait, ben, on constate que le choix de l'équipe, il est vachement important. Au-delà de la qualité du management, au-delà bien sûr du contrat en termes pécuniers ou même aussi du matos, c'est concrètement par rapport à son profil de coureur, quelle place il peut avoir au sein d'un collectif. Et moi, je me pose beaucoup de questions, parce qu'il a un profil sprinter, mais pas que. On a vu qu'il a fait des très bons résultats sur les classiques. Et est-ce que Alpecin, bah, c'est vraiment la meilleure équipe pour lui? Parce que pareil, sur les sprints, il y a Cadengrove qui va très vite. Donc est-ce qu'il n'est pas finalement un peu, si je puis me permettre, le cul entre deux chaises et que son
Il se pose
avenir
la même
pourrait être
question que toi.
dans une autre équipe? Voilà, mais je trouve ça pour le coup intéressant. Après, on n'a pas les considérations financières qui certainement motiveront aussi son choix, mais c'est pour ça que vu le début de saison qu'il fait, peut-être les doutes qu'il peut avoir, à la fois sur son niveau actuel, mais aussi sur son équipe future, petit avertissement.
D'accord, très bien. Bon, alors écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on débriefe un peu plus précisément le Paris-Nice. Et après, on verra le Tirreno. Je pense qu'on va passer un petit peu plus de temps sur Paris-Nice. Tirreno était quand même un peu moins intéressant. Peut-être que je suis le seul à avoir constaté ça. Alors Paris-Nice, je vous propose de commencer par effectivement la Visma. Vous l'avez tous les deux mis en félicitations. La Visma avec Matteo Jorgensen, l'Américain de 24 ans, qui a remporté Paris-Nice. Et pour moi, la première question que je vais vous poser, messieurs, c'est est-ce que vous attendiez au sacre de Matteo Jorgensen sur Paris-Nice, quand on sait que si on revient 10 jours auparavant, on était tous en train de parler d'un duel Roglic-Remco. Et là, il y a notre petit Américain qui s'est glissé entre les deux, enfin surtout devant Remco et qui a remporté ce Paris-Nice. Messieurs, la première question, est-ce que vous attendiez à Matteo Jorgensen à ce niveau? Qui veut commencer?
Non, allez, je me lance. Non, moi je m'attendais pas à ce niveau. C'est ce que je vous ai dit quand on a préparé l'émission. Je m'attendais au mieux un top 10, sinon un top 5. Je le voyais vraiment pas à ce niveau-là. Et aussi parce que bah, j'attendais comme tout le monde le duel Roglic avec Remco. Donc surpris. Bon après c'est pas quand même c'est pas un gars qui sort nulle part. Hein. Jorgensen,
Demi-surprise.
on se rappelle de ce qu'il a fait sur le tour, sur l'étape du Puy-de-Dôme, sur l'étape de
Exact.
Roanne. C'est vraiment un beau coureur, mais je l'aurais plus vu peut-être dans un registre de ouais de. Enfin, tu me dis à la limite qu'il gagne une étape, qu'il fait
Il
un
l'avait quand même fixé comme objectif,
problème.
hein. C'était son
Ouais.
objectif de début d'année, Paris-Nice.
Ouais, tout à fait, mais très honnêtement, je le voyais pas à ce niveau. Après, peut-être que voilà, je me suis bien planté.
Tu le voyais
Après,
top 5?
je le voyais ouais top 5 au mieux. Ouais, bah oui, parce que devant, bah, j'aurais mis un Roglic, j'aurais mis un Remco, pourquoi pas un McNulty. Enfin, je voyais tous ces coureurs-là vraiment
Ah ouais,
au-dessus. Et en
McNulty
fait, il me
carrément.
surprend. Ouais, en fait, il me surprend ce coureur. Il est difficile à cerner parce que je trouve qu'il est aussi, il peut être très performant sur des classiques. On l'a vu aussi sur le Tour des Flandres. Voilà, il peut être très, très, très performant, pardon, sur des étapes vallonnées bien difficiles comme sur le Tour. Donc, il est difficile à cerner. Je le voyais pas vraiment aller aussi loin et, enfin, c'est-à-dire gagner le général de Paris-Nice. Donc, non, pour répondre à ta
Pierrot,
question, c'est non,
je vais
d'accord.
donner la parole à Pierrot un petit peu pour te donner la réplique et puis après, bah, peut-être que je donnerai quelques éléments.
La réponse de mon côté, c'est aussi non. Après, avec du recul et a posteriori, c'est toujours plus facile. Je pense quand même qu'il a, bah, il a progressé, il a passé un cap, ça c'est indéniable. Après, on est sur Paris-Nice. Lui, il avait bien préparé son coup. Je pense que physiquement, il était au top. La configuration du Paris-Nice aussi, avec le chrono qui lui a peut-être été favorable vu les circonstances.
Favorable.
L'annulation,
Ils ont perdu du temps. Hein. Ils ont perdu du temps là.
Ils ont perdu du temps, mais peut-être qu'ils en auraient perdu plus si les conditions n'avaient pas été changeantes. J'en sais
Ah,
rien, mais ce que je veux
ok.
dire, c'est que la météo a une
Avec la
influence
pluie, ouais.
quand même sur l'annulation de l'étape, l'arrivée d'étape à Oron. Bref, c'était pas un Paris-Nice. En fait, j'anticipe éventuellement sur la suite. C'est pas parce qu'il a gagné le
Classique.
Paris-Nice qu'il se place comme un candidat légitime pour gagner d'autres courses d'une semaine. Je pense que le parcours était tout particulièrement adapté et il était clairement le plus fort ou l'un des plus forts, peut-être avec Remco, et il a parfaitement joué. Donc là, je suis en train de dire que sa victoire n'est pas logique, mais non, pour répondre à la question, je l'attendais pas. Clairement, je l'attendais pas dans les deux premiers. Après, c'est un Paris-Nice, ça joue généralement pas cette année à peu de secondes, donc dans le top 5, oui, je le voyais, mais pas sur les deux premières places.
Mais c'est là où je trouve ton dernier point, il est intéressant, parce que les Paris-Nice, d'habitude, il faudra vraiment regarder dans le détail, mais moi, ce que j'ai en tête, c'est que ça se joue à chaque fois sur les cinq premiers, sur question de secondes, de poignées de secondes, allez, 1 minute grand max, mais on sait que chaque seconde est vraiment importante. Et là, comme tu le dis, là, il a pas volé son Paris-Nice, il le gagne avec 30 secondes sur Remco, il met déjà une 47 à McNulty, et puis le 10e, Roglic, il est à plus de 5 minutes. Donc c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus, il le gagne pas avec un écart infime sur un coup. Je trouve qu'il a bien géré son Paris-Nice. Il fait une superbe attaque sur l'étape qui est, enfin sur le l'étape qui est remportée par Skelmose. Enfin quand ils partent avec McNulty et Skelmose, c'est super bien joué tactiquement. Derrière, on pourrait y revenir. Remco ne suit pas et je pense que c'est là où il perd le Paris-Nice.
On y reviendra.
Mais il est allé le chercher, je trouve, son Paris-Nice.
Ah mais clairement, c'est une surprise qu'il gagne, mais c'est pas avec de la chance qu'il l'a gagné. Il l'a gagné
Complètement.
à la pédale, même si j'ai dit que voilà, la configuration lui était plutôt favorable, mais ça fait partie de la course et ça dépend chaque année de ce qui est proposé.
Je pense que Matteo Jorgensen, il prétendait pour moi top 3 derrière Roglic Remco. Quand on voyait son début de saison où il était déjà très en forme sur le N Newsblad. Et aussi, on sait que c'est une course qu'il affectionne et qu'il avait coché avec la Visma. Alors, je pensais pas qu'il serait premier, mais je le voyais bien dans les rôles juste derrière les deux monstres.
Ah ouais.
Après, j'ai été un petit peu me plonger dans les stats. Il fait quand même 2 fois 8e du Paris-Nice l'an dernier en 2021. Et quand tu regardes sa place de l'an dernier, 8e, il est juste derrière Poggi, Godu et Vingegaard sur les étapes de
Ouais.
montagne. Parce qu'il perd quand même du temps avec la Movistar sur le chrono par équipe. Donc si tu nivelles un petit peu, il aurait été proche du top 5, voire top 5 l'an dernier si tu retires le temps perdu sur le chrono par équipe. Donc c'est vraiment et quand tu regardes bien ces saisons, Paris-Nice, il l'a souvent axé comme une très bonne course, sûrement pour aussi préparer les Flandriennes. Mais effectivement, de là à battre Remco et Roglic, c'est tout de même la demi-surprise de ce début de saison. Et la question que je vais vous poser pour continuer, c'est est-ce que Jorgensen aurait gagné ce Paris-Nice si on n'avait pas amputé l'étape de samedi de la Colmian et de la montée vers Oron? Je rappelle, la Colmian, 7,5 km à 7,1% et Oron, 7,3 km à 7,2%.
Je pense que la Colmian, c'est plus long que ça, mais bon, je comprends la question. C'est difficile à dire. Je pense que, comme l'a dit Nico, il était quand même fort. Après, peut-être que sur des efforts limités en temps, c'est davantage dans sa filière que monter un col sur 40 minutes, un vrai col. Donc peut-être qu'il aurait été moins à son avantage, mais bon, je pense qu'il a quand même gagné à la pédale. Donc ça aurait peut-être mis plus de suspense, mais difficile à dire. Voilà, réponse de Normand, je sais pas.
Ok, super, Nico.
Bah moi, en tant que vrai Normand, je vais faire la même réponse.
Oh là là,
Non,
monsieur, s'il vous plaît, mouillez-vous
non,
un
mais
peu là.
je vais apporter un élément. Pour moi, je ne sais pas si cette étape aurait tout changé et c'est difficile de se projeter. Moi, pour moi, ce qui change et ce qui fait qu'il gagne Paris-Nice et que Remco le perd, c'est l'étape 6 où Remco laisse filer, le voit partir. Il voit que Roglic n'est pas bien, il voit partir McNulty, Jorgensen et Skelmose. Et là, il les accroche pas, alors que je pense qu'il a largement, évidemment, les jambes pour le faire. Il les suit pas, et derrière, il gagne. Enfin, ces trois arrivent avec, je crois, de mémoire, 50 secondes d'avance quasiment sur Remco. Je pense que Remco, il perd Paris-Nice ici. Et donc, du coup,
Ok,
on retourne à ta question.
Écoute, tu me fais ma transition toute faite. J'ai compris que vous ne voulez pas trop vous mouiller sur potentiellement
Ah, et tu
la
me demandes
victoire
de
de
mouiller
Matteo
sur des
Jorgensen.
étapes qui n'ont pas eu lieu, c'est dur, c'est dur.
Ah,
Ouais, là,
messieurs,
tu me demandes du scénario fiction. Nico est meilleur que moi pour ça.
Eh ben, on va tout de suite basculer sur Remco, messieurs. Autant vous avez peut-être pas vu venir la victoire de Jorgensen, mais est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez trouvé ce Paris-Nice un peu décevant pour Remco? Et ma deuxième question, c'est quelle a été sa plus grande faiblesse, vous trouvez, sur ce Paris-Nice? S'il y a eu une faiblesse. Pierrot, peut-être pour commencer.
Ah, on pourrait dire plein de choses sur Remco, mais si on va à l'essentiel, si je devais le résumer en quelques points, je trouve qu'il a du mal tactiquement à pas courir comme une brute. Après, je trouve des circonstances atténuantes parce que parfois il est tellement au-dessus du lot qu'il peut se le permettre. Mais c'est vrai que là, il veut courir en patron, mais sans forcément être au-dessus des autres, et je pense que ça lui joue un peu des tours. Dans le sens où on sait qu'il va attaquer, on sait à quel moment il va attaquer. Donc déjà, sur des cols qui sont assez roulants, le fait de prendre l'aspiration, tu t'économises quelques watts. Quand Jorgensen est sorti, tout le monde attend que ça soit lui qui aille les chercher, qui aille chercher les mecs qui sortent. Ouais, je trouve qu'il manque. Mais après, pareil, il arrivait tard dans le vélo. Donc premier point, tactiquement, je pense que c'est quand même très perfectible. Et c'est quand même un point important parce que il va arriver sur le Tour de France face à deux extraterrestres, peut-être encore plus extraterrestres que lui sur certains types d'efforts ou certaines ascensions. Et donc, il faudra qu'il apprenne à être un petit peu malin. Ça, c'est mon premier point. Et mon deuxième et dernier point, j'ai du mal à comprendre quels sont les. Je vais faire un peu de psychologie. Quels sont les ressorts, les vrais ressorts de sa motivation. C'est-à-dire qu'il communique en disant qu'il est content, qu'il a gagné le maillot à pois, qu'il a gagné le maillot vert, qu'il a gagné une étape et qu'il a fait deuxième du général. C'est pas forcément la représentation de Remco et Monopole que j'avais il y a encore 1 ou 2 ans. Clairement, qui était un tueur, qui était là pour gagner. Donc, je sais pas trop qu'est-ce qui relève de la com, qu'est-ce qui relève vraiment de ses intentions. Et puis finalement, sur la dernière étape, il a fait le spectacle, il est content. Ou quand même, au fond de lui, il se dit merde, j'avais l'occasion de gagner une course d'une semaine et je ne l'ai pas fait. Et moi, je pensais qu'il était plutôt sur ce deuxième état d'esprit où il est là pour gagner le général, point barre. Et quand je vois ses déclarations, ses communications, ça met un petit peu le doute. Voilà.
Ouais, et puis certaines fois aussi il communique des fois en disant je viens sur Paris-Nice pour pas pour la gagne, pour faire un je sais pas un podium ou un top 5, je sais plus ce qu'il avait dit, il est
Ouais, ce qu'il a dit, il a dit podium.
plus
Je viens pour un
prudent.
podium et une victoire d'étape.
Ouais, Nico, qu'est-ce que t'en penses de l'avis de
Oui,
Pierrot?
je partage. Hein, alors, je l'ai vu après son interview, je l'ai vu après le Paris-Nice, mais effectivement, il a déclaré qu'il venait sur Paris-Nice avec l'ambition de faire une victoire d'étape et un podium. Bon, quand t'es
Ce qu'il a
Remco, tu
fait.
peux te poser quand même la question. Alors, c'est ce qu'il a fait. Contrat rempli s'il est OK avec ça. Mais moi, j'ai quand même un petit peu de mal à y croire. Et alors moi je partage tout ce qu'a dit Pierrot aussi sur l'aspect tactique et je me pose une question aussi, on n'a pas évoqué le sujet, mais le sujet de son équipe et de ses coéquipiers. Parce que quand tu regardes l'équipe quand même qu'il a autour de lui, bah c'est pas des les gars, c'est quand même des bons coureurs, c'est solide. Enfin, il a Louis Vervac, Van Wilder et Cataneo pour l'accompagner. Et moi bon, j'ai pas suivi peut-être OK toutes les étapes dans le détail, mais j'ai pas souvenir que ces gars-là ont été d'une grosse aide pour Remco. Ou alors j'ai vraiment pas le
Ah
souvenir.
bah non, son équipe, elle a été,
Ah voilà.
elle est derrière, clairement, elle est loin derrière UAE et Visma quand tu vois
Ah
comment
c'est
ils ont,
ça.
c'est Remco qui devait gérer tout seul la course quasiment,
Donc c'est ça.
enfin,
Donc
dès que ça accélérait fort.
Remco, je pense qu'il est peut-être effectivement, comme Pierrot, tu l'as très bien dit, peut-être que tactiquement, il a peut-être pas toutes les, peut-être pas toutes les, je dirais les bons réflexes ou les bons, encore les bonnes, dispositions pour courir, je dirais parfaitement tactiquement. Mais en plus de ça, je trouve qu'il n'est pas aidé par son équipe. Il n'a pas été, enfin, son équipe lui a pas apporté un gros soutien. Alors que tu dis que Jorgensen, enfin, la Visma, ils envoient, je veux dire, c'est un peu du même niveau. Kelderman, ils avaient, comment il s'appelle l'autre, Boumain ou un nom comme ça. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'ils envoient une équipe un peu quand même d'un niveau avec des gars similaires. Mais Remco, il est solo et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font à la Quick Step, quoi? Et donc, ça en dit long si, s'il doit s'aligner sur le tour. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gars-là pour l'épauler, hein?
Je vous trouve un peu sévère quand même sur l'équipe parce que alors oui si on compare UAE et Visma c'est un ou deux crans en dessous mais On est quand même sur deux équipes qui dominent très largement le cyclisme mondial. Et en dessous, ben, si tu regardes, ils sont quand même pas mal équipés. Et là, moi, Françoise Etapes, Vervac, il a quand même Van Wilder l'a accompagné à certains moments assez longtemps. On a vu Cataneo, donc oui, il va souvent se débrouiller seul. Mais je trouve que c'est un peu
Ouais, mais
facile de taper que sur son équipe. Voilà.
non, mais justement, pour moi, ces gars-là, c'est des costauds. Justement, ce que je dis, c'est Cataneo, Van Wilder, c'est des mecs costauds. Et je trouve que tactiquement, ils n'ont pas fait. Enfin, tu te dis, putain, tu pourrais vraiment avoir un collectif assez impressionnant là pour justement faire renverser ou basculer par Nice. Et j'ai l'impression qu'ils s'en servent pas.
Il y a notre
Alors après,
animateur
peut-être
qui lève
que.
la main, il veut mettre fin au débat.
Ouais.
Non, moi, je parle, je vais juste, je pense que les erreurs tactiques, donc j'insiste là-dessus quand même aussi de Remco sur l'étape de la colle sur loup, là, quand c'est Skelmos qui gagne. Cette erreur tactique, je pense que dans une autre équipe, elle peut être invisible ou gommée. Je pense typiquement à UAE ou Visma, c'est-à-dire que eux, ils auraient eu quasiment certains qu'ils auraient eu un coéquipier encore avec eux dans le col quand Skelmose et Jorgensen part. Et du coup, le fait de pas y aller pour Remco, alors déjà je sais pas s'il pouvait ou pas, j'imagine que oui, mais au moins UAE et Visma n'auraient pas eu à se poser la question, ils auraient eu Kuss ou Adam Yates pour être devant et aller chercher les fuyards quoi. Mais non non, je pense que bah, moi je suis d'accord que sur le point de la tactique, il y a eu cette erreur sur cette étape-là et je sais pas aussi quel était son niveau réel, hein, de savoir ce qu'il était capable de faire ou pas, mais bon, sur la dernière étape, on a vu quand même il aurait pu prétendre à la gagne. Et l'équipe, je la trouve quand même un peu faible parce que quand on regarde même Bora lui passe devant cette équipe maintenant, en plus de UAE et Jumbo et Visma, pardon. Pierrot.
Ouais, juste un point, on critique sa tactique, après faut aussi se mettre à la place du coureur. Quand t'es quasiment à bloc et que t'as 10 mecs à surveiller, bon c'est toujours plus facile assis dans son canapé de faire les bons choix, donc faut aussi avoir ça en tête, mais c'est vrai que là c'était assez visible, il a peut-être fait une erreur que d'autres ne feraient pas, mais comme tu l'as dit, je trouve ça intéressant. Il y a la tactique du coureur, la capacité à prendre les bonnes décisions, et il y a aussi l'équipe pour gommer. Et je pense qu'un mec comme Pogacar, tactiquement, parfois, il fait pas forcément les bons choix, mais il est tellement fort que ça se voit pas, ou que sinon il a des coéquipiers à côté de lui. Donc voilà, je tenais à le rappeler, préciser que c'est pas toujours évident quand on est sur
Ok.
son vélo, on manque de lucidité, quoi.
Nico, pour conclure, et après on passe sur un autre sujet.
Pour conclure, c'est peut-être une transition que je te fais. Est-ce que son erreur, ça n'a pas été, c'est une question que je me pose, hein, mais ça n'a pas été justement de ne se concentrer que sur Roglic? Parce que
Eh ben
sur le
c'est tout de suite la
moment.
transition.
Ah là 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 là.
La
Mais bien sûr,
transition,
il est
Roglic,
fort. Il est fort.
voilà, Roglic, un Paris-Nice décevant, on peut le dire, mais êtes-vous inquiet pour Roglic, messieurs? Je vous pose la question. Et Nico, bah, qui tu étais lancé. Vas-y. Feu.
Allez, j'y vais. Est-ce que je suis inquiet pour la suite de sa saison?
Oui, inquiet pour la suite de sa saison par rapport à ce qu'il a fait sur Paris-Nice.
Bah,
Cite, tu peux très bien dire j'ai pas assez d'éléments pour répondre, et puis voilà, on passe à une autre question, hein.
En fait, ce qui est fou, c'est que Roglic, tu vois, sa saison 2023, il a tout gagné. Toutes les courses qu'il a fait, il a gagné. Il gagne le Giro. Donc là, évidemment, changement d'équipe. En fait, là où inquiet, c'est peut-être un grand mot, mais j'ai du mal à voir comment il va faire aussi bien. Enfin, je pense que c'est même impossible qu'il fasse aussi bien. Et donc du coup, ma question, enfin, ce que je me pose, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir, il va pouvoir gérer ça parce qu'il va être dans une, enfin, il est dans une équipe qui est évidemment moins forte que la Visma, qui a pas les mêmes armes. Là, on le voit qu'il est peut-être limité sur un plan physique, mais comme l'a dit Pierre, et je suis plutôt d'accord, bah, faut attendre une ou deux autres courses pour voir parce qu'il est peut-être sur, voilà, ça fait peut-être partie de sa stratégie, son plan d'entraînement, ce genre de choses. Mais voilà, enfin, il pourra pas faire une saison aussi pleine que l'an dernier. J'ai du mal à voir clairement son objectif cette année sur le Tour de France.
Et là,
Je
alors,
pense que
mais
il...
j'ai passé
Vas-y, vas-y.
la parole à Pierrot par rapport à ce que tu dis. Bon, bah, effectivement, Roglic nous a habitués à, dès qu'il s'aligne sur une course d'une semaine sur les 3 dernières années, à part quelques exceptions, il a gagné. Donc là, ce n'est pas le cas sur cette année-ci. Donc, entre guillemets, c'est le seul motif d'inquiétude. Pierrot, Qu'est-ce que t'en penses?
Alors cette fois-ci, je vais avoir une réponse beaucoup plus tranchée, même si je suis pas dans la tête de Primoz. Il a gagné quasiment toutes les courses d'une semaine. Il a gagné le Giro, il a gagné la Vuelta. Il a annoncé qu'il voulait gagner le Tour.
C'est
J'ai
pas tant
envie de
pour le
dire
tout.
tout le reste, c'est en partie superflu. S'il a la ramasse sur le Dauphiné, alors je sais pas s'il fait le Dauphiné ou le Tour de Suisse, là ça sera inquiétant, mais j'ai envie de dire jusqu'à 3 semaines du Tour. Peu importe, l'important c'est qu'il soit à son pic de forme pour le tour. Enfin, je pense qu'il appréhende comme ça sa saison. Donc, nous en tant que suiveurs et commentateurs, on peut s'en alarmer et voir en être déçus, mais je pense que lui, il est vraiment focalisé sur le Tour de France.
Et alors justement, moi j'ai une petite question à te poser. Donc, il fait le critérium déjà pour te répondre. Et donc, du coup, on a vraiment cette impression des fois entre deux cyclismes qui s'entrechoquent. Pierrot, Nico, vous allez me dire ce que vous en pensez. Avec des coureurs comme Remco qu'on juge sur une course d'une semaine et on se dit que c'est pas possible qu'il la gagne pas par rapport à son niveau. Et des fois, des préparations un peu plus à l'ancienne que je classifie, que je nommerais comme ça, avec des coureurs qui vont monter en puissance le long de la saison jusqu'à leur objectif. Et je trouve ça assez particulier à quel point le cyclisme a un peu basculé. Il y aurait quelques années, 5, 10 ans, on s'inquiéterait ni pour Remco, ni pour Roglic.
Bah déjà, je te félicite pour avoir travaillé ton dossier et d'avoir une visibilité sur le calendrier de Primoz à 3 mois. C'est pas mon cas, donc bravo. Et ensuite, pour répondre à la question, et après je laisserai Nico
C'est
s'exprimer, en
sa
fait,
femme
je
qui vient d'envoyer un
pense
texto.
que ceci ne nous regarde pas. Je trouve que on confond parfois un peu tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le niveau moyen, en tout cas, c'est tout ce que tous les acteurs le disent, et on le voit aussi à travers les métriques telles que les puissances dégagées ou même les temps sur les cols. On est sur une densité, un niveau moyen qui s'est véritablement élevé depuis 2, 3 ans. Donc ça veut dire que bah, pour exister sur des courses, même quand tu es très fort, enfin quand tu fais partie des 20 meilleurs mondiaux, bah, tu es quand même obligé d'être au moins à 95% de ta forme pour être acteur, voire pour gagner, quoi. Donc ça, faut le prendre en compte. Et après, moi, je parle à mon niveau amateur, très modeste amateur, c'est que tu as des avantages et inconvénients. La course, ça te permet parfois d'aller dans des niveaux d'inconfort et d'intensité qu'il est difficilement possible de répliquer à l'entraînement. Mais inversement, bah, tu maîtrises pas exactement le contenu et les filières sur lesquelles tu veux progresser. Enfin, tu fais l'analogie avec la course à pied, les mecs, ils s'entraînent pendant 3 mois et forcément ils progressent parce qu'ils maîtrisent complètement les
Ce qu'ils
zones
font.
d'effort, les temps de récup, etc. Ce que tu peux pas faire quand tu t'alignes sur des courses où bah, parfois il y a des étapes de plat pendant 3 heures, tu siffles dans les roues, quoi. Donc c'est deux préparations différentes, mais ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas un modèle miracle, quoi. Ça dépend de là où le coureur veut progresser, quand est-ce qu'il veut performer, et aussi certains sont plus ou moins capables de se rapprocher d'un effort type course, quoi.
Très intéressant, Nico, un petit point pour conclure.
Ouais. Pour conclure, bah alors moi sur cet aspect-là, j'ai fait mes petites recherches justement en me projetant
Ouh, ça
sur
va
les petites
sortir de la stat là.
paramilies.
Ah,
Ah,
ça roule, ça bosse. Hein.
c'est la stat que je vous ai sortie, donc j'ai dû remonter à 2007 pour voir un Français hors du top 10.
T'étais
Donc ça,
pas
c'était
né.
pour refaire le lien avec les coureurs français qui ont été moyens sur ce paramilies-là. Et du coup, en me projetant sur le top 10, en fait, sur les top 10 de ces dernières années, moi, ma remarque, elle est par rapport à ta question, Pierrot, c'est que, bien sûr, en considérant toute la valeur des coureurs qui étaient top 10 sur Paris-Nice, mais il y avait des coureurs, des fois, il y a encore 5-10 ans, qui font top 10 sur Paris-Nice. Honnêtement, c'est des coureurs quasi inconnus, qui après, tu vois jamais dans le reste de la saison, qui sont plutôt des coureurs moyens. Et j'ai l'impression que c'était plutôt la norme, en
Plus
fait,
ouvert.
voilà, sur ces, ouais, plus ouverts. Je pourrais vous en citer quelques-uns, mais voilà, je vais vous parler. Je sais pas, d'un Robert Kieselowski Astana qui
Là,
termine
je
9e
connais.
en 2012. Tu connais? Il y a des coureurs, non mais comme des, ouais, Angel
Bon, tu vas
Vicioso,
pas tout
pareil, fait top 10. Je vais pas tout vous dire, mais voilà. En fait, je me
nous.
suis aperçu qu'il y a des coureurs. J'étais là, mais ok, c'est qui ces gars-là? Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tu regardes le top 10 cette année de
C'est plus
Paris-Nice
dense.
ou des années précédentes, bah ouais, t'as un plateau de malade mental. Tu peux plus arriver à être un coureur moyen et faire top 10. Donc
Alors,
voilà, c'est pour répondre à ta question.
Eh ben écoute, c'est très bien, je pense qu'on a fait le tour de la question. On va tout de suite basculer sur l'autre épreuve qui a eu lieu en parallèle, Tirreno-Adriatico, la course entre deux mers. Il y a vu la victoire facile, messieurs, de Jonas Vingegaard. Il a remporté deux étapes. Je pense qu'on sera un peu plus court sur ce Tirreno. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez envie de noter est-ce que Jonas Vingegaard est battable? On va essayer de répondre rapidement à cette question.
Moi, c'est inquiétant.
Trop facile.
Non, mais je me dis c'est inquiétant s'il est à ce niveau-là sur le Tirreno qui relègue à plus de plusieurs minutes des Hindley, des Ayuso. Enfin, c'est quand même, on est quand même sur le gratin du cyclisme mondial. Je pense, et je finirai là, que le Tour de France peut être très long.
D'accord, Pierrot, je pense qu'on. Est-ce que tu as. Bon, je pense que le seul adversaire, ça sera ça, à l'heure actuelle de ce qui se dessine, ça peut être que Pogacar. Non, l'impression que te donne Vingegaard sur ce tour Tirreno-Adriatico qu'il a écrasé.
Je pense que l'impression, on a un peu tous la même. Après, on est début mars, le tour c'est en juillet, il peut se passer beaucoup de choses. Et Nico, tu as fait allusion. Poggi, moi j'ai trouvé particulièrement. On va dire aminci par rapport à d'habitude. Alors c'est pas un gage d'amélioration de son rapport poids-puissance, mais ça peut l'être. Donc tout ça pour dire que je suis curieux de voir leur duel et je pense que oui, enfin je suis curieux de voir face à Pogacar. Rappelez-vous que l'an dernier, avant que Poggi explose, il y avait match. Donc attention à pas trop s'emballer, mais ce qui est sûr, c'est que si allez, on met Poggi au même niveau, ensuite il y a un désert, il y a des galaxies de distance et bon ça pose quand même question, mais oui, pour répondre à la question, très impressionnant, mais le tour n'est pas encore joué.
Nico?
Oui, pour compléter, la seule chose que je trouve, moi j'ai découvert sur ce Tirreno, c'est que Vingegaard maintenant se lance à 25-30 bornes de l'arrivée, et ça je trouve que c'est quand même assez quelque chose de...
Ah, il l'a fait aussi pendant Camino, là, Grand Camino.
Ouais, exactement. Il l'a fait depuis le début de la saison et il n'hésite pas à se lancer donc sur les dernières portions de col à 5-6 km du but et voilà et à se dire qu'il peut tenir en solo jusqu'à la fin. Donc je trouve que c'est un nouveau et registre.
Enfin, il se lance même pas. Hein. Il se met devant le peloton et à un moment il se retourne, il voit qu'il n'y a plus personne.
Mais, oui,
il
n'a
pas compris pourquoi.
C'est exactement ça. Mais voilà, je trouve que c'est un registre quand même un peu nouveau dans lequel s'inscrit Vingegaard. Donc ça va être intéressant de voir.
Alors,
de la même façon.
Et ce qui est d'autant plus écœurant, juste pour terminer, c'est quand même un poids plume, donc tu peux comprendre que sur des cols avec 30 minutes d'effort, il soit avantagé, mais là, même sur des pentes à 5-6%, il lève le cul de sa selle, il accélère 45 secondes et il n'y a déjà plus personne, quoi.
Ça fait rêver.
Déjà, en tant que spectateur, ça peut être un peu ennuyeux, mais je me mets à la place de l'adversaire, ça doit être quand même assez écœurant.
On va pas épiloguer sur Vingegaard. Je pense que pour l'instant, il y a rien à dire. Je pense que le prochain rendez-vous, ça sera en avril, quand il va se frotter à Remco et Roglic sur le Tour du Pays Basque. Ma petite dernière question sur Tirreno, ma petite question provoque. On a vu un Ayuso quand même très performant qui gagne le chrono devant Ghana, enfin le prologue. Et on a vu aussi un Del Toro pour ses premiers mois dans le monde... professionnel être éblouissant. Il y en a un qui finit deuxième, Ayuso, quatrième, Del Toro. Pour vous, lequel de ces deux, Ayuso, Del Toro, sera le premier à remporter une épreuve World Tour par étape? Vous l'avez pas vu venir,
ça. Je dirais Ayuso.
Ayuso.
Non, je dirais Ayuso.
Très bien, Ayuso. C'est pour vous, sans explication comme ça.
Bah, Del Toro est vraiment très très impressionnant et parle d'impression lors du Down Under, c'était quand même fou ce qu'il avait fait. Là, il confirme qu'il en fait, il est ultra complet. Quoi. Donc, même sur le prologue, il limite quand même la casse. Donc, oui, c'est un futur très très grand. Après, à ce jour, quand même, Ayuso, il apporte plus de garanties sur des tours 3 semaines et même sur des tours d'une semaine. Donc, non, moi,
il y a des références. Il y a des références à Ayuso, deuxième du Tour de Suisse, troisième de la Vuelta. Il limite
alors,
très loin.
Pour clôturer, quelle épreuve World Tour Ayuso va remporter en premier? Allez, comme ça, à la volée, sans réfléchir.
Bah moi, je ne suis pas le chroniqueur Pierre de Ligue, donc je ne connais pas forcément son calendrier, donc je suis un peu
embêté. Donne-nous son calendrier, s'il te plaît.
Oh là là, je vais vous le donner,
je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et bah tu sais quoi, il va
Ah, il
remporter
va.
le Tour de Romandie.
Tour de Romandie, c'est possible. Ok, très bien. Messieurs, je vous propose qu'on bascule tout de suite. Bon, je pense qu'il y avait encore plein d'autres choses à dire sur les Français, sur Jonathan Milan, mais peut-être qu'on va pouvoir en parler justement sur notre prochain topic. Milano Sanremo, la Primavera, messieurs, c'est
Milan,
samedi,
Milano.
c'est le premier
Et
monument, c'est près de
oui.
300 km, c'est la Cipressa, c'est le Poggio. Qu'est-ce qui va se passer, messieurs? Qu'est-ce qui va se passer sur cette course magnifique? Je veux que vous me donniez le scénario de course et si possible, votre vainqueur. Et puis après, on en débat plus tranquillement. Qui se lance?
Et bah feu, et bah moi je vais vous donner mon scénario de course.
Tu nous le fais
Je vais
rapide et on
donner.
en débat plus tranquillement après.
Je vous le fais rapido. Il va se passer quelque chose qui s'est plus passé depuis les années 90. Poggi attaque dans la Cipressa à 25 bornes du but. Je vous l'ai dit, il n'y en a que un qui va tenir sa roue, c'est VDP. On a ces deux petits larrons qui se font la malle, qui partent dans la descente, qui creusent un écart d'une vingtaine de secondes sur un gros groupe hein, de costauds. On retrouvera du Ghana, du Petersen, du
Ah, il connaît déjà toute
Maurik.
l'histoire. C'est très précis.
Voilà, et on arrive dans le podio. Ils abordent le podio donc avec 24 secondes d'avance et
24.
Poggi en met une à 300 mètres du sommet du
Au
podio.
niveau
Il
du panneau
bascule
boulangerie, je crois.
exactement au niveau de la cabine téléphonique. Et il bascule dans la descente avec 7 secondes d'avance sur VDP et derrière, ça ne revient
Il
pas. Et
conclut.
Poggi sauve son quatrième monument distinctif.
Ok,
Terminé
donc
mon scénario.
on va poser la question à un vrai chroniqueur maintenant, Pierre Marchand.
Non, mais c'est toujours intéressant d'avoir le résumé de la course de Nico sur PCS. Écoute, en termes de scénario, après m'être moqué de Nico gentiment, oui, il y a clairement deux favoris, mais je les vois pas forcément être capables de sortir tout le monde à la pédale. Alors encore moins dans la Cipressa, ça, je crois que ça a rarement marché, parce qu'il y a quand même un peu de, même si c'est pas très long, il y a un peu de plat derrière et
Ah,
avec
c'est
des
plus
équipes
long que le
structurées,
podio,
c'est.
hein, la Cipressa.
Non, non, je parle de entre la Cipressa et le Podio. Il y
Ah,
a quand
ok,
même un peu
pardon.
de latence, donc déjà faut réussir à sortir dans la Cipressa et ensuite bah t'es à deux, tu bouffes quand même une cartouche à maintenir jusqu'au pied du podio, donc j'y crois pas trop. Et en fait,
D'accord.
moi je vois plutôt un scénario où ça va jouer on va dire 6-7 coureurs et voilà, s'il faut en sortir qu'un, peut-être un Pedersen que j'ai trouvé très impressionnant depuis le début de la saison.
Ok, bah c'est très intéressant parce que tu anticipes ma prochaine question. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que c'est sur ce monument, est-ce que ce monument peut ne pas être remporté par un des fantastiques? Quand je dis fantastique, Van der Poel, Pogacar, bon, les autres sont pas là,
Pierre
Roglic,
Marchand.
Remco, Pierre Marchand. Et donc, Pierrot, tu me réponds tout de suite que tu vois bien Pedersen, donc tu réponds directement à ma question. Nico, toi, pour toi,
Yes.
ça sera forcément un des deux fantastiques qui s'alignent, Van der
Ben.
Poel ou Pogacar? Un
Ouais,
scénario
mais
similaire à l'an dernier.
bon, là, je vous ai fait mon scénario pour les auditeurs, pour faire lever les foules. Mais
Mais
là,
c'est
il y a
pas
un
du tout ce que je
coureur.
pense.
Mais c'est pas du tout. Non, sinon, non, les deux autres coureurs, pour moi, capables, hors fantastique, capables de gagner, donc Pierre l'a dit, et Petersen. Et il y en a un qu'il ne faut pas enterrer, car l'an dernier, c'est pas passé loin, c'est Filippo Ganna. Et donc voilà, Ganna, sur le Tirreno, il
Ah
était
mais
quand même
moi je
deuxième du
l'enterre,
premier
c'est marrant
chrono.
parce que je l'enterre complètement moi Gana, mais
Ah ouais?
vas-y, vends-le-moi.
Eh bien, je ne l'enterre pas parce qu'on est en Italie, on est chez les Italiens, et je ne sais pas, il se passe quelque chose. Les Italiens, Milan Sanremo, il se passe quelque chose, je ne saurais pas l'expliquer, c'est au-delà du vélo. Et Filippo Ganna, déjà l'an dernier, moi je ne l'attendais pas à ce niveau-là, il a été éblouissant. Et je pense que cette année, il sera à nouveau avant-poste. Et c'est bien un pour moi de des coureurs qui n'est pas un fantastique, qui ne sont pas des fantastiques, qui peut s'imposer. Donc je remets Ganna sur le papier.
Moi, j'ai rien contre Ganna, mais son début de saison quand même ne plaide pas en sa faveur. Hein. Alors, il y a peut-être des
C'est
raisons
sûr.
hein, précises qui l'expliquent, mais son début de saison est quand même moyen.
Oui, c'est vrai, à part sa deuxième place sur le Tirreno.
Alors, je vais poser
Voilà
une
qui n'a
question un
pas
petit
fait.
peu plus technique là pour vous faire avancer sur les deux scénarios. Bon, Pogacar, je pense qu'on imagine forcément que ça va être UAE qui va rouler. Qui va mener un train d'enfer dès la Cipressa. Est-ce que il va attaquer dans la Cipressa ou dans le Poggio? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que quasiment tous les coureurs du peloton savent ce qui va se passer, c'est-à-dire que ils attendent une attaque de Pogacar. Celui qui ne le sait pas, je pense qu'il n'a rien à faire sur un vélo. Donc c'est quand même un scénario qui est ficelé. La question, elle vient. Pierrot tout à l'heure a parlé du fait que Pogacar était peut-être un peu plus fit que ses précédentes années. Est-ce que il peut sur ce, il a été impressionnant sur l'estrade, mais est-ce qu'il peut manquer légèrement, je dis bien légèrement de puissance sur une bosse comme le Poggio qui est de 4-5% pour faire la différence et bah ouais, prendre suffisamment de secondes pour aller jusqu'au bout.
Bah, quand on voit comment il a roulé sur ses adversaires sur l'estradé, non, je pense qu'il y a pas de il y a pas de problème quoi. Mais de là à sortir Van Der Poel de la roue, bah c'est quand même autre chose, surtout sur un type d'effort qu'affectionne Van Der Poel. Et puis même même s'il bascule avec 5-6 secondes, c'est pas gagné derrière quoi. Donc c'est pour ça que il est au-dessus hein, le Poggi, mais c'est peut-être pour répondre à ta question et confirmer que oui, c'est peut-être mis en Sanremo de la course ou qui peut échapper à un fantastique.
Ok, bah, très bien. Vous êtes à la place de Van Der Poel. Nico, tu veux peut-être dire quelque chose, pardon. Tu veux peut-être rebondir sur Pierrot.
Je veux dire un truc sur Van Der Poel qu'on n'a pas dit. Enfin, c'est une question que je pose. Hein. Je ne sais pas si tu voulais nous la poser, Pierrot. Mais il y a Van Der Poel, bon, évidemment, on sait tout le talent qu'il a, mais c'est sa course de reprise.
Oui.
Et voilà, moi, c'est un petit point d'interrogation aussi. C'est dans quel état de forme il va arriver.
T'as vu la course de reprise de.
De Pogacar.
Alors, je crois que Van Der Poel a fait 2 ou 3 semaines en altitude là pour se préparer pour le Milan, Sanremo.
Ok.
D'accord. Et l'autre point, je te vois venir avec cette course de reprise. Sa course de reprise en 2022, c'est Milan-Sanremo, il finit 3e.
Très bien.
Voilà, si je peux répondre. Non, je pense qu'il sera prêt.
C'était plus une question qu'une interrogation.
Et encore plus récent, à la fin du Tour de France, donc on était à 7, il y avait que 2 semaines, mais oui, tu me diras, non, je l'ai dit, hein, il n'a pas couru. Enfin, il paraissait emprunté sur le Tour de France, en tout cas loin de son meilleur niveau. Et 2 semaines plus tard, après le Tour, il était champion du monde. Voilà.
Tout à fait. Ouais. Un petit peu plus, peut-être que 2
semaines. Et puis je pense qu'il a aussi l'option Van Der Poel, vous m'arrêtez si je me trompe, mais il a l'option aussi de ne pas attaquer, c'est-à-dire qu'il peut très bien rester dans la roue de Pogacar. Si les deux collaborent, je pense que Van Der Poel il a déjà battu plusieurs fois au sprint Pogacar et sur Milan-San Remo, alors sans le gagner, mais quand ça finissait dans le petit groupe, il était devant Pogacar, donc il a quand même une bonne carte à jouer au sprint face à Pogacar s'ils arrivent tous les deux quoi.
Et blague à part, mais bon, j'ai fait mon scénario peut-être un peu loufoque, mais vous pensez que Poggi, il va attendre le podio au vu de ce qui s'est passé l'an dernier, il va se dire, allez, je remets la même dans le podio, cette fois-ci ça a passé, je vais lâcher VDP, et dans la descente, j'ai suffisamment d'avance pour gagner. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il se dise, attends, j'attends dans le podio, mais le gars il me suit, et au sprint, il me saute.
Bah, en fait, je sais pas, c'est possible qu'il attaque dans la suppression. Moi, ça me paraît, les rythmes sont tellement dingues et tout, que je pense que ça peut être aussi un petit peu, peut-être un peu suicidaire, mais je pense que ce qui est sûr, c'est que le rythme de la Cipressa, à mon avis, ils vont sûrement. Moi, je pense que UAE va tout faire pour faire sauter le record de montée de la Cipressa et que le groupe soit le plus restreint possible pour que les coureurs soient le plus empruntés et que la difficulté va faciliter le travail de Pogacar pour attaquer dans le Poggio. Après, partir de la Cipressa, pourquoi pas hein, il est parti à 80 bornes dans l'estradé.
Il peut essayer, mais de là à réussir, ça semble quand même.
Je partage un peu l'avis de Pierrot.
Et c'est la limite de Milan-San Remo. C'est ce qui explique aussi que finalement, bah, c'est pas forcément les grands favoris qui gagnent. C'est que c'est une course alors qui est très longue, mais quand même relativement facile. Je parle bien pour un professionnel de top niveau mondial et que bah, t'as la Cipressa et le Poggio, mais avant, t'as quand même pas grand chose. Donc en fait, ils arrivent tous assez frais. Ce qui fait que dans la Cipressa, t'es pas sur des tas de fatigue très avancés. Donc t'as encore des équipiers pour contrôler, pour faire le rythme. Et bah, forcément, ça monte très vite. Et dans l'aspiration, t'économises quand même pas mal de puissance. Donc c'est pour ça que ça. C'est une course où il est quand même assez difficile de se départager. Quoi.
Quelqu'un a dit Milan-San Remo, la course la plus facile à terminer, mais la plus difficile à gagner.
C'est beau.
C'est qui ben, ça sera le mot de la fin pour moi, messieurs. Je dois
Très bien. Bah, écoutez, voilà, je voulais faire une petite dernière note par rapport à peut-être un petit Olaf Koy. On va voir ce qu'il donnera. Voilà, je vous le donne. Je vous dis rien.
J'y crois pas.
Personne n'y croit. Pourquoi pas?
Si, la porte ou Koy, moi je vois bien un Visma. Vu leur dynamique actuelle sur le podium.
J'y crois pas.
Ok, messieurs. Eh ben, en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver pour cette première émission, la première d'une longue série. Messieurs, je vous souhaite une bonne après-midi.
Les podcasts.
À tantôt.
Profitez. Salut, profitez. Faites du vélo.
Ciao.
Faites du vélo. Ciao.